Bivouac avec François Cervantes. La compagnie L'Entreprise se raconte et dévoile sa démarche artistique.
La compagnie a commencé il y a 20 ans. On a commencé à répéter à Brive, la Gaillarde. On est arrivé au mois d'avril. La première répétition, c'était le 1er avril, je crois. Et il neigeait. On était dans un local qu'on avait loué à des sourds-muets. Et il fallait la chauffer avec un grand poêle à bois. Il y avait toujours quelqu'un de l'équipe qui venait une demi-heure ou une heure avant pour mettre du bois pour que la salle soit chaude quand on commençait à répéter. On était au moins une quinzaine. Il y avait des comédiens que j'avais rencontrés pendant des auditions à Paris. Ça a été les débuts du travail avec la compagnie, chercher une alphabet de travail. On faisait énormément d'improvisation et il y avait un compagnon de travail qui s'appelait Jean-Paul Chavant, qui était romancier, qui a été très important pendant les premières années de la compagnie. C'était comme un point de repère. Il habitait à une cinquantaine de kilomètres de Brive. Il était dans une maison au milieu des arbres où il vit toujours. Et on passait des journées entières à passer de l'improvisation à l'écriture. Il était capable d'aller chercher des livres dans un mur de bibliothèque, de retrouver pratiquement la page pour me faire lire quelques lignes d'un roman ou d'un autre. Ça a été quelqu'un de très précieux pendant les deux premières créations. Et c'est lui qui m'a donné le point de départ de la seconde création. Il m'avait dit qu'il y avait un morceau de musique où trois chefs d'orchestre étaient morts à la même mesure. C'est une histoire qui m'avait fasciné. Je pense que c'était de comprendre un des rapports entre l'art et la vie. Et ça a été ça pendant toute la compagnie, après, de chercher des ponts entre l'art et la vie. Le théâtre, au début, c'était, pour moi, c'était rien, longtemps, c'est venu d'un seul coup. Mais maintenant, je le relis au match de foot le soir sur la pelouse éclairée par les lumières artificielles. C'était aussi les visites de musées, des lectures, la découverte de poésie, des voyages, beaucoup. Et c'est un endroit qui ne soit pas lié qu'à la littérature, mais qui était lié à un ensemble de choses où le corps avait beaucoup d'importance. Donc on a démarré la deuxième création, le Venin des Histoires, avec uniquement cette anecdote-là qu'on avait décalée, qui était devenue l'histoire d'une diva qui restait dans le silence et qui se préparait à chanter la somnambule, un morceau où plusieurs divas étaient mortes à la même mesure. Puis c'était la 24e mesure. Il se trouve que Catherine Germain a eu un accident de voiture assez grave le 24e jour des répétitions. J'ai écrit le texte, je crois, deux semaines avant la première, dans une espèce d'état d'urgence. Mais les trois mois de répétition étaient consacrés uniquement à la recherche. J'avais envie de chercher d'autres formes d'énergie chez les acteurs. Et je crois que ça a été ça ensuite, pendant tout le long de la compagnie. J'ai l'impression que quelque chose de l'ordre de la poésie est plutôt caché à l'intérieur du corps que dans les livres. Il y avait une personne que j'avais rencontrée à Montréal avant la création de la compagnie qui s'appelait Eugène Lyon, qui était un Américain qui vivait au Québec, qui a été quelqu'un de très important ensuite, et qui disait on peut consolider la falaise d'où on va sauter, mais pas le vide dans lequel on s'élance. Qui disait aussi qu'un texte est un tuyau. Quand il est bien fait, le tuyau est très solide, mais il permet d'aller forer le corps humain et d'en extraire une énergie profonde, et que c'est cette énergie qui rejoint le public. Donc, il y a eu la création du Venin des Histoires, qui a été une création très particulière, qui à la création est restée endormie pendant au moins un an, qu'on a ressorti ensuite. C'était une création qui était assez difficile et qui ensuite est devenue un spectacle très important pour la compagnie et pour le groupe de gens qui ont participé à cette création. Donc cinq anges qui entendaient la voix d'une diva avaient envie de s'incarner pour connaître cette femme. Et donc on suivait les trajectoires de ces cinq anges incarnés qui se croisaient ensuite sans se souvenir qu'ils avaient vécu une vie ensemble avant. Et pour jouer les anges sur scène, on avait intuitivement abordé la forme du clown, qui a été ensuite un parcours important dans la compagnie, et pour moi très important dans la littérature ensuite, même si ça a rendu de nombreux quiproquos et ça a rendu les choses difficiles à éclaircir ensuite. Et puis, après Le Venin des Histoires, on a continué sur ce travail du clown avec deux comédiens, Dominique Chevalier et Catherine Germain. On est parti dans le sud de la France et on est resté plusieurs mois dans le silence à essayer de relier les corps avec quelques mots. Et ça a été la naissance du spectacle La Curiosité des Anges. Ça a été aussi le début des tournées. On a commencé à tourner en France et puis on est parti faire des tournées à l'étranger, donc c'était la découverte d'autres cultures. On est parti jouer en Inde, ça a été une découverte très importante, très dérangeante et très bouleversante. On a joué le premier soir, je crois, c'était une salle de 1500 places de la régie. Moi, je voyais le décor qui était un cercle de pelouse de 4 mètres de diamètre, je le voyais comme une petite Smartie. Et dans la salle, les gens entraient, sortaient, étaient habitués à des spectacles de 7 heures. Le spectacle durait 1 heure et quart. Et on est sorti de cette représentation dans les rues de New Delhi. On était extrêmement dérangés, à la fois dans notre travail et dans notre vie. Et puis ça a été une tournée assez longue où on a fait l'Inde, un peu du nord au sud et d'est en ouest. Et ça a donné naissance ensuite à de nombreux voyages en Orient et beaucoup de réflexions sur ce qu'il y a d'universel quand on fait un travail. On croit toujours que c'est un travail qui peut se partager à travers les cultures et puis finalement on se rend compte que c'est un long travail pour comprendre comment est-ce qu'on peut exprimer les choses de manière plus simple et plus physique, plus vibratoire, pour qu'elles soient partagées à travers les cultures. Après La Curiosité des Anges, ça a été comme une pause. On a rejoué plusieurs fois les trois spectacles d'affilée, le premier, le second et le troisième bar, Le Venin des Histoires et La Curiosité des Anges. On a commencé à jouer des nuits entières, on démarrait à 10h du soir et on finissait au petit matin vers 5-6h du matin. Et on partageait le petit déjeuner avec les spectateurs qui avaient vécu la nuit avec nous. Des moments où le travail d'acteur changeait de texture avec la fatigue, le fait de traverser plusieurs rôles, et de voir se faire ce travail-là d'épure pendant une nuit, c'était très instructif. Et de comprendre que au-delà d'un moment de spectacle, partager une durée longue avec le public, ça a emmené vers quelque chose qui était au-delà d'un spectacle. Au moment du Venin des Histoires, j'avais déjà envie de quitter un schéma qui soit un texte, des rôles, et de chercher quelque chose qui soit plus libre de la part de l'acteur. Avec La Curiosité des Anges, on avait été plus loin, on s'était enfoncé à l'intérieur du silence. Et pour moi, c'était une chose très importante parce que je crois que le théâtre a commencé à germer pendant mon enfance où je n'arrivais pas à parler. C'était quelque chose de très difficile d'arriver à parler. Et j'ai commencé à écrire le soir, je me relevais. Le théâtre, souvent, ça commence le soir. Et c'était d'essayer de mettre des mots ensemble et d'articuler des phrases pour coudre ensemble les sensations que j'avais et des mots du vocabulaire. Et avec La Curiosité des Anges, j'ai l'impression qu'on a fait une intrusion assez loin dans le silence et d'essayer de mettre ensemble des mots et la texture du corps. Puis après cette trilogie-là, On a monté le dernier quatuor d'un homme sourd que j'avais écrit à Montréal avec Francine Ruel. Donc c'était la première fois qu'on travaillait sur un texte qui était déjà écrit, qui a été réadapté un petit peu, mais... Et avec ce texte-là, on a fait des tournées pendant longtemps. C'était l'histoire d'un quatuor à cordes qui répétait sur les derniers quatuors de Beethoven. Et quand j'avais écrit ce texte, c'était pour essayer de résoudre la question de savoir ce qu'on doit abandonner des exigences personnelles quand on travaille en groupe. Donc c'était quelque chose d'un peu fondateur qui allait avec la création de la compagnie. Comment est-ce qu'on peut réussir à ne rien perdre de son exigence tout en travaillant avec les autres? Puis après, au fur et à mesure que les années ont passé, se rendre compte que la question se pose aussi d'une manière différente. C'est dire que les autres peuvent nous donner accès à une exigence plus grande de notre part. C'est une exigence d'écoute et d'ouverture. Alors ce spectacle-là, on l'a joué pendant plusieurs années. On jouait en même temps la trilogie et puis le dernier quatuor d'un homme sourd. Et ensuite, ça a été le démarrage du travail avec la musique. Le travail avec la musique a toujours pris beaucoup d'importance à l'intérieur de la compagnie. C'est comme un point idéal pour la langue. Dans Bar, il y avait des musiciens qui étaient sur scène. Ça a été de faire connaissance avec Philippe Foch, qui était avec un autre musicien. Puis ensuite, dans Le Venin des Histoires, c'était de travailler avec Erika Bekassis, qui était compositeur. Et toute la pièce tournait autour de la musique. Donc la musique était comme le cœur de cette pièce. Puis ensuite, le dernier quatuor d'un homme sourd, c'était l'histoire de musiciens. Donc la musique était en permanence à l'intérieur du spectacle. Et dans le spectacle suivant, On a marché sur la terre, il y avait quatre musiciens qui formaient un groupe. Et c'était l'histoire de gens qui voyagent et qui disparaissent de l'endroit où ils sont en train de vivre. C'est-à-dire des gens qui quittent du jour au lendemain leur histoire sans donner de nouvelles et qui s'en vont sur les routes. Donc c'était des gens qui se retrouvaient comme ça, par hasard, sans se connaître, et qui avançaient un peu droit devant eux sans avoir de destination précise. Et le spectacle était un peu à mi-chemin entre un concert et une pièce de théâtre. Puis ensuite, on a créé, quelques jours avant l'équinoxe de printemps, qui était la suite, on a marché sur la terre et sur tous les personnages qu'on voyait dans On a marché sur la terre. Il n'en restait que quatre, qui étaient un petit peu au bout de leur voyage, le moment où on n'a plus de raison de continuer à voyager, mais on n'a pas de raison de rentrer. Donc c'était ce moment d'arrêt, un peu, d'ouverture à autre chose. Et les musiciens étaient toujours là. Il y avait beaucoup moins de mots. Et c'était un spectacle blanc. On voyait ces personnages vivre cette journée, ce matin, sans avoir de raison de repartir, d'être dans un moment d'apesanteur, un peu comme quand on lance une pierre où elle a fini de monter, elle reste un tout petit moment en l'air avant de retomber. Ça a été une des collaborations les plus étroites avec les musiciens. Et d'essayer de trouver un accord le plus serré possible entre la texture du langage et la texture de la musique.
Bivouac avec François Cervantes.
Et ensuite, il y a eu la création de Masque, qui était un spectacle qui devait être créé en quelques mois, en 3 ou 4 mois, et qui finalement a été un travail qui a duré 7 ans. Et ce travail est né au départ d'une rencontre, comme très souvent dans la compagnie. Et c'est une des merveilles au théâtre, c'est que on n'est jamais à l'abri d'une rencontre qui peut bouleverser le travail et lui faire prendre une autre direction. et que ça peut arriver de d'un peu tous les territoires artistiques. Et là, c'était la rencontre de Didier Moutura, qui était un directeur de théâtre qui accueillait les spectacles de la compagnie et puis qui, un soir, m'a demandé de monter avec lui dans son bureau et qui m'a montré des masques, des photos de masques. Et qui m'a appris que pendant une dizaine d'années, avant d'être directeur de théâtre, il avait travaillé avec un homme qui s'appelait Cyril Dive, qui avait créé la première école de masques en France, qui était plutôt un musicien et un plasticien venu des pays de l'Est et qui, à travers le théâtre de masques, cherchait à créer des instants de beauté. Et puis à sa mort, les gens s'étaient dispersés, Didier avait mis ses masques dans les malles et il me proposait de reprendre ce travail-là. Il a créé pour nous 12 masques d'une famille. J'avais travaillé sur l'écriture avant et j'avais fait des portraits de personnages. Donc je lui demandais d'essayer de sculpter les visages de ces personnages-là. Et ça a été la découverte du théâtre de masques que je ne connaissais pas du tout, qui était d'une difficulté énorme et qui crée des moments d'une beauté fascinante. Donc c'était toujours d'être pris entre le désir d'abandonner parce que tout semblait impossible, trop difficile, et le choc quand il y avait des moments de beauté qui faisaient que on continuait quand même. Donc on a créé une première ébauche de ce spectacle qui était évidemment très approximatif. Et puis il s'est engagé un travail qui avait l'air d'être beaucoup plus un travail de recherche et qui demandait de remettre en question l'écriture, la scénographie et surtout le jeu des acteurs. Alors il y avait la chance que il y ait des moments qui étaient des moments de référence quand Catherine Germain mettait les masques. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont souffert. Donc il y avait des équipes qui disparaissaient les unes après les autres. Et ensuite de chercher une équipe d'acteurs qui soit capable de jouer les masques et d'avoir envie de la liberté extrême que ça donne et des contraintes énormes que ça demande. Ce travail est toujours pas fini, cette recherche n'est toujours pas finie. Après Masque, il y a eu un voyage en Indonésie où on a créé l'épopée de Gilgamesh avec des acteurs javanais, des acteurs français. Et puis il y a eu la création du voyage de Penazar. Et on va sans doute recréer le spectacle Masque avec de nouveaux acteurs. Mais ça a été le point de départ de découverte d'éléments du jeu de l'acteur qui sont valables quand l'acteur n'a pas de masque, mais qui est un jeu qui ne peut absolument pas être psychologique et qui demande à l'acteur d'avoir une position de musicien et d'instrument, d'être à la fois l'instrument et le musicien, donc d'avoir une grande maîtrise, une grande sincérité vis-à-vis de ses sentiments et de son corps et de sa composition. Et puis c'était la découverte aussi que l'appartenance des masques était sûrement le territoire de l'improvisation. Donc de découvrir que ce territoire de l'improvisation pouvait être très large et très mystérieux. On n'y a pas énormément touché, sinon en répétition. Et ensuite, moi j'avais très envie de rejoindre le territoire de la littérature. Mais il reste cette porte ouverte qu'un acteur qui éprouve de la liberté avec un masque peut lire un masque comme on lit un livre. C'est-à-dire qu'une fois qu'il porte le masque, il commence à improviser, on sent que ça sculpte son corps, sa voix, ses mouvements, son intelligence et sa pensée. Et quand le masque commence à sculpter sa pensée, on a l'impression d'avoir accès à des moments de poésie, d'invention. Et les plus beaux moments que j'ai vus avec les masques ont été des moments d'improvisation pure. J'avais l'impression de voir devant moi quelque chose qui était de la création instantanée, poétique. Peut-être qu'un des souvenirs les plus proches de ce que j'ai éprouvé avec les masques, qui remonte à il y a longtemps, quand on faisait des voyages en Espagne avec ma famille, on habitait au Maroc, donc pour remonter en France, Pendant les vacances, on s'arrêtait dans la famille de mon père, qui était en Espagne, dans le sud, du côté de Valence. Et quand on y allait au moment de Pâques, il y avait des grandes processions. On a été en voir plusieurs années. Et donc on ressortait d'immenses statues colorées. Donc on voyait arriver ça de très loin, du bout de la rue, des grandes statues de la Vierge par exemple, qui étaient des visages très abandonnés, très lisses, qui arrivaient extrêmement lentement. Et au fur et à mesure que les statues s'approchaient, qui devaient faire 5 à 10 mètres de haut, et qui étaient portées par des hommes, donc c'était des grands plateaux, portés par une vingtaine ou une trentaine d'hommes, on entendait les cris des hommes qui essayaient de synchroniser leurs mouvements, qui se fatiguaient, qui demandaient à être remplacés, qui buvaient, qui se désaltéraient pour pouvoir tenir. Ils avaient vérifié le trajet avant pour pouvoir passer dans les rues, mais c'était toujours extrêmement délicat. Donc il y avait une violence, une agitation, une dépense physique énorme. Et puis au-dessus, cette statue immobile qui appartenait au monde de la peinture et de la sculpture, complètement indifférente à cette agitation. Et ce couple-là d'agitation et de figure calme, chose qui m'avait énormément marqué. Et ensuite, de retrouver le travail de masque où on peut abandonner les masques pendant 2 années, 1 année. Et puis quand on les ressort, on sent qu'ils nous attendent, ils ont toujours la même forme. Et de voir, peut-être ça n'a jamais été aussi fort, l'agitation des acteurs autour de ce travail, le découragement, des moments de liberté, d'intensité, de joie. Une dépense physique énorme. Et ce couple-là, qui est comme les couples de rodéo, ce couple impossible, ça me rappelle ces images très fortes de l'Espagne. Donc avec les masques, ça a été la découverte du territoire de la peinture ou de la sculpture, comme de l'intérieur. Découvrir une profondeur de silence et une durée de temps et de patience qui était inatteignable, mais qui était comme un point d'horizon pour le théâtre. Comme la musique l'avait été dans les spectacles précédents, et qu'il était aussi sur masque, puisqu'il y avait des musiciens sur scène. Et j'ai l'impression que tous les autres arts sont autour du théâtre, comme ça, comme des points ultimes, mais que le théâtre est très approximatif, toujours dans le temps, avec une grande part de vulgarité, d'approximation, de brouillon. Mais que c'est ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est le lien entre ces formes peut-être plus pures et puis le corps humain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut vivre de ces arts-là à l'intérieur du corps humain. Donc c'est toujours ce rapport entre l'art et la vie qui ne soit pas séparé. C'est vrai que quand j'étais à Paris, que j'avais des amis peintres, j'avais énormément de plaisir à passer des après-midi dans leur atelier, à les voir travailler pendant qu'on était en train de parler et de voir comment petit à petit la peinture avançait pendant que la conversation continuait. J'ai plus de mal quand je vais dans une salle et que les tableaux sont accrochés au mur, que le peintre n'est plus là, que les traces de peinture ne sont plus au sol, au mur, que la conversation n'est plus là. Et pour la musique, c'est la même chose. J'ai beaucoup plus de plaisir à voir les musiciens répéter, ou les voir jouer. Et puis une fois que ça devient un disque, il y a quelque chose qui s'éloigne et que j'ai du mal à suivre. Il y a beaucoup de musique que j'ai découvert grâce à des musiciens avec qui j'ai fait des voyages et qui m'ont fait découvrir pendant ce temps-là des musiques. Donc je retrouvais cette atmosphère-là, d'avoir la musique et puis la conversation qui allait autour. Et ce qui me plaît au théâtre, c'est le lien possible entre le texte et le corps humain pour faire émerger quelque chose qui est peut-être de l'ordre d'un poème, d'une poésie, mais qui serait à l'intérieur du corps humain et non pas dans un livre, dans une bibliothèque. Et le texte au théâtre, c'est un des moyens pour travailler. Mais après, il existe peut-être un texte qui est à l'intérieur du corps humain et qu'on essaye toujours de déterrer, on essaye toujours de remettre à jour ce texte-là. Et grâce au texte, grâce à la lumière, à la musique, on essaye de faire émerger, de faire partager ce texte comporte en nous. Ensuite, après ce travail de masque qui a continué, qui continue maintenant, qui est devenu comme une des branches maîtresses de l'arbre, du territoire qu'on est en train d'explorer, qui a été aussi l'occasion de découvrir d'autres cultures, d'autres théâtres de masques, et surtout, que ce soit au Japon ou en Indonésie, en Orient en général, de découvrir des pays où le rapport entre l'art et la vie était différent. Ça a été sous prétexte d'aller découvrir le théâtre de certaines sociétés traditionnelles, de découvrir qu'il existait encore des endroits, de moins en moins, où l'art et la vie étaient dans un rapport très étroit. Les voyages ont toujours été très importants dans la compagnie pour cette raison-là, de découvrir d'autres rapports entre l'art et la vie, donc de se reposer la question, non pas en imitant, mais en essayant de réinterroger la manière dont on vit le théâtre. Et la découverte de l'Indonésie, de Java et de Bali a été un choc énorme, de découvrir que l'art était au centre de la vie, qu'il scandait les cérémonies les plus importantes, qu'il réunissait une communauté, qu'il n'était pas question d'une chose esthétique, mais plutôt d'une chose symbolique, et que cette soirée était là pour fêter un moment de la vie, qu'on ne regardait pas directement les spectacles en tant que tels, mais que les spectacles étaient faits pour qu'on regarde mieux la vie. Il y a même des cérémonies où on fait des spectacles de théâtre de marionnettes sans écran, sans lumière, dans un coin et sans public. Et ce qui est important, c'est de le faire, c'est un petit peu comme une prière. Et de voir dans des villages des gens qui ont très peu de choses ressortir des masques des mâles et se retrouver entre eux. Un spectacle que j'avais vu qui m'avait bouleversé, qui était avec des acteurs qui avaient, je crois, tous plus de 70 ans. Donc les gestes étaient devenus extrêmement approximatifs, un peu comme des fumées, mais on voyait d'autant plus que ce qui était important, c'est ce qui était vécu à l'intérieur de ces gens-là et la raison pour laquelle ils faisaient ça. Et les voyages ont toujours rebondi sur des créations.
Bivouac avec François Cervantes.
Donc ensuite, après le théâtre de masques, ça a été de continuer le travail de clown qu'on avait commencé avec La Curiosité des Anges, qui évidemment est une forme qui est tellement forte que ça pose toujours la question de d'où ça vient, et où c'était toujours guidé par la jubilation. Donc après La Curiosité des Anges, il y a eu la création du sixième jour, puis ensuite la création du concert, et puis la création dernièrement des clowns. Ça a été aussi l'occasion de découvrir le cirque, de travailler avec des cirques, avec l'école du cirque. Mais un des points de jubilation le plus fort quand on a travaillé sur la curiosité, c'était d'essayer de descendre vers quelque chose qui soit l'essence d'une personne et de découvrir que cette essence était comique. On porte en nous des désirs qui sont tellement forts et tellement impossibles à réaliser. Il y a un tel écart entre ce qu'on désire et ce qu'on peut faire que c'est une des essences du comique. Et donc c'était à la fois un travail extrêmement intérieur et qui déclenchait le rire. Les premières fois que j'ai commencé à rire en répétition, c'était absolument pas sur des gags, c'était sur des visages, certaines expressions, certaines tensions du corps humain, des situations extrêmement simples qui déclenchaient le rire. Donc ça a été ensuite de partager ce trajet avec certaines personnes, certains élèves de l'école du cirque, puis avec Catherine Germain et Dominique Chevalier. Et donc il y a eu des spectacles comme ça qui sont nés toutes les 3, 4, 5 ans et qui forment une petite ligne en pointillé tout le long de la vie de la compagnie, parce que ça a été la naissance de personnages qui peuvent appartenir à plusieurs histoires, qui sont des gens qui sont en marge des histoires, qui n'ont pas la capacité d'y rentrer, qui n'ont pas la capacité de jouer un rôle sans avoir un regard critique, une certaine distance, et qui étaient une manière de se libérer complètement des rôles et de l'affrontement entre différents personnages d'une histoire et l'appartenance à une écriture, mais c'est des personnages qui sont en dehors des histoires et qui permettent d'avoir un regard plus vierge sur les situations. En travaillant petit à petit sur les clowns, et puis en ayant travaillé sur les masques et en ayant voyagé avec le spectacle, je me posais toujours la question de comment réunir ces endroits qui avaient l'air si différents les uns les autres. Et puis petit à petit, c'était de me rendre compte que ce qui m'intéressait, c'était le réel. Et que j'avais du mal à tenir la place de metteur en scène, que j'avais plutôt la place de l'auteur et que je finissais par l'accepter, d'essayer de m'intéresser à la relation directe que peut avoir un auteur avec les acteurs, et que la mise en scène était le résultat des relations qu'on avait entre nous, d'une forme d'évidence, d'un goût partagé, mais que je n'avais pas l'impression de faire un travail de metteur en scène, et que j'étais de plus en plus intéressé par le réel, y compris les acteurs. Donc le portrait m'intéressait de plus en plus, et que il m'arrivait d'écrire pour des visages, pour des voix. Donc c'était de découvrir plutôt ce qui était sous les apparences, une réalité, et d'essayer de la faire apparaître, et de découvrir des histoires qui pouvaient raconter cette réalité-là, plutôt que de demander à un acteur de rentrer dans une fiction qui était déjà écrite. Et j'ai envie d'aller de plus en plus loin dans cette direction-là. Il y a 2 ans, j'ai travaillé avec un acteur qui s'appelle Laurent Zizerman et qu'on s'était rencontré sur un spectacle dans lequel on jouait tous les deux. On avait envie de travailler ensemble. Et puis, il m'a appelé un soir, on s'est parlé longtemps au téléphone. Il avait l'occasion de jouer dans des appartements, du théâtre en appartement. Il me demandait si on pouvait imaginer une collaboration. Et pendant cette longue conversation, j'avais l'impression de sentir que quelque chose était en train d'arriver. Et puis, quand on a raccroché, il y a un texte qui est venu très très vite dans les jours qui ont suivi, qui est à la fois un texte de fiction, mais qui est né aussi de cette conversation et du désir de travailler ensemble. Et ce travail qui s'apparente à celui du portrait m'intéresse de plus en plus, qui est peut-être plus facile à comprendre en peinture, où on est intéressé par un visage, un corps, une certaine morphologie, et puis on cherche quelque chose à travers cette personne qui est en face. Et j'ai l'impression de plus en plus de m'intéresser à ça dans l'écriture. De chercher qu'est-ce qui se cache derrière un visage, qu'est-ce qui se cache derrière un corps, derrière une voix. Et ce qui se cache derrière, c'est peut-être ça qu'on peut appeler une fiction. De portrait, je l'avais commencé il y a plusieurs années avec les comédiens de l'Oiseau-Mouche. On m'avait demandé d'aller travailler sur un spectacle. L'Oiseau-Mouche, c'est une structure qui est à Roubaix, dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui est la première troupe qui s'est faite avec des acteurs handicapés mentaux. Donc il y avait dans le groupe des gens très différents, une personne qui était schizophrène, un autre qui était autiste, des gens qui étaient blessés nerveusement, psychologiquement. Et il n'y avait pas la possibilité d'aller vers un rôle. C'est-à-dire leur vie, leur incarnation, leur souffrance était tellement importante qu'il était pour moi impossible d'imaginer de les faire rentrer dans une histoire qui aurait été écrite a priori. Donc on a commencé à travailler ensemble. Et petit à petit, il est né une écriture de leur présence, du travail qu'on faisait ensemble. Donc c'était à la fois une histoire qui était une fiction, qui racontait une histoire qui ne leur était pas arrivée, et en même temps j'avais l'impression que c'était leur portrait de leur présence sur le plateau, de leur présence face au public, et du drame de leur incarnation, de leur relation entre eux, de leur présence au monde. Et cette manière d'écrire, c'est-à-dire d'essayer de d'écrire une fiction qui soit la plus mince et la plus transparente possible pour faire apparaître un battement, une présence sur le plateau, c'est une chose qui est en train de s'accentuer de plus en plus. Maintenant que les années sont passées, il y a des personnes avec qui on travaille depuis le début, donc il y a une vingtaine d'années de complicité. Et depuis quelques années, il se passe quelque chose d'entièrement nouveau, qui fait que on accorde beaucoup d'importance au travail qu'on est en train de faire et aux nouvelles créations, mais il y a derrière ça ce temps qu'on a passé ensemble. Donc on est en train de rentrer dans une nouvelle manière de travailler qui ouvre des portes. Parce que ce qu'on a vécu est toujours derrière ce qu'on est en train de faire de nouveau, et que le rapport entre l'art et la vie est une chose qui devient palpable. On ne peut plus faire attention uniquement au spectacle, à ce qu'on est en train de créer, mais on revient de plus en plus vite à nous-mêmes et de la raison pour laquelle on fait ça. Donc c'est à la fois un travail qui s'étale sur un temps beaucoup plus long, qui demande beaucoup plus de délicatesse et plus d'exigence. Et la part d'autobiographie dans les spectacles est de plus en plus importante. Alors sur ces 20 années de travail partagé avec de nombreuses personnes et des gens qui sont là depuis le début, c'est une drôle d'impression de travailler pendant 20 ans pour une trentaine, une quarantaine d'heures de spectacle. Mais il y a à travers ça des moments, des fois, qui sont comme des moments de beauté, qui font qu'on a l'impression d'arrêter le déroulement du temps. Que c'est des moments qui sont éphémères, mais peut-être que ça reste, que ces moments, on peut y retourner à n'importe quel moment. Ils sont logés quelque part dans le corps, et c'est des moments où on a réussi à échapper au déroulement du temps, et que ça vaut l'acharnement pour créer ces tout petits instants.
Prochain bivouac avec la compagnie L'Entreprise, le mardi 4 avril sur Radio Grenouille.